Radio Cité Genève, votre radio à Genève.
Genève Internationale. Épiphane Monfaux.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de Genève Internationale. Fondée à Genève en 2004, la presse emblème campagne œuvre depuis 20 ans pour renforcer la protection des journalistes dans les zones dangereuses. En deux décennies, plus de 2000 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier, soit une moyenne de 100 par an. Blaise Lampen est le cofondateur et président de l'APEC. Il l'a souligné à travers un communiqué, l'impunité entourant la plupart de ces crimes qui demeure donc la principale préoccupation de l'ONG. Nous sommes avec justement Blaise Lampen. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer l'APEC il y a 20 ans et qu'est-ce qui a été le déclic ?
Alors le déclic, c'était la guerre en Irak. C'est là, il y avait vraiment beaucoup de journalistes qui avaient commencé. La guerre avait commencé en 2003. Il y avait vraiment beaucoup de journalistes qui étaient tués de différentes nationalités dans ce pays à la suite des hostilités déclenchées par les États-Unis. Et puis notamment, il y avait eu une attaque contre l'hôtel Palestine par un char américain qui avait tué deux caméramans. Donc on avait décidé avec un groupe de journalistes accrédités à l'ONU à Genève. Donc il y avait aussi parmi eux celle qui a été longtemps présidente, c'est l'Égyptienne Hedayat al-Bennabi, de créer cette ONG pour essayer de renforcer la protection des journalistes, la sécurité des journalistes dans les zones de conflit.
20 ans plus tard, quel bilan vous pouvez tirer en faveur de la protection des journalistes ?
Bon, alors le bilan, il est très mitigé parce que d'un côté, il y a toujours beaucoup de victimes. Alors, on voit récemment avec la guerre à Gaza, il y a un record de journalistes palestiniens tués dans cette guerre parce que la plupart des conflits qui ont eu lieu récemment sont des conflits qui se déroulent dans des zones résidentielles, dans des zones urbaines et où la distinction entre civils et combattants n'existe plus vraiment. Donc les combattants se cachent dans des zones civiles et puis les civils sont tantôt combattants, tantôt civils, donc c'est très difficile de les distinguer. Alors les journalistes sont très exposés dans ce type de combat et là maintenant, depuis le 7 octobre 2023, donc en 8 mois, vous avez 130 journalistes palestiniens qui ont été tués dans les combats, donc essentiellement à cause des frappes israéliennes indistinctes, disons, sur les bâtiments civils. Donc, en fait, le bilan de ce côté-là des victimes, il reste très lourd. Il y a quelques années où on est tombé sous les 100 victimes par an parce que les conflits se sont un peu estompés dans le monde. Mais la plupart du temps, on est resté au-dessus de la centaine de victimes. Donc, sur ce plan, il n'y a pas vraiment de progrès. Sur un autre plan plus positif, il y a une sensibilisation au problème de la part des gouvernements, de la part des organisations internationales. L'UNESCO a mis en œuvre un plan pour la sécurité des journalistes. Il y a eu beaucoup de réunions, disons, le Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale de l'ONU, le Conseil de sécurité ont adopté des résolutions sur la sécurité des journalistes pour dire qu'il ne fallait pas les attaquer, etc. Mais bon, les mécanismes d'application manquent et puis les sanctions en cas de violation patente, disons, du droit humanitaire manquent. Donc il y a une bonne volonté, disons, sur le plan des principes, mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose.
Qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus, ONU, UNESCO ?
Donc nous sommes favorables depuis le début, et ça a caractérisé notre ONG par rapport à d'autres, à l'élaboration d'une convention internationale. Alors cette convention internationale sur la protection des journalistes dans les zones dangereuses, bien spécifiée, donc dans les zones dangereuses, aurait pour avantage de déclencher des enquêtes indépendantes, parce que très souvent on constate qu'il y a impunité, parce qu'il n'y a pas de volonté de la part des autorités locales concernées de trouver les commanditaires, parce que c'est souvent ceux-là qui ne sont pas inquiétés, et de faire les enquêtes nécessaires. Donc les systèmes judiciaires sont souvent corrompus ou sont gangrénés, disons, par exemple au Mexique, par les cartels de la drogue, et donc il n'y a pas d'enquête. Alors cette convention imposerait, disons, des enquêtes indépendantes, avec des rapports, avec une documentation, comme la plupart des comités de l'ONU le font pour d'autres secteurs des droits de l'homme. Et puis aussi, par exemple, des réparations pour les victimes, avec des dédommagements pour les familles des victimes. Donc il y aurait un certain nombre de mécanismes qui seraient en place qui permettraient d'aller plus loin par rapport à la situation d'aujourd'hui.
Où en est justement votre convention ? Quelle est la prochaine étape ?
Alors bon, on continue d'ailleurs, on a le soutien par exemple de la Fédération internationale des journalistes qui aussi s'est prononcée pour une telle convention. Donc ça représente quand même 600 000 journalistes dans le monde. Donc on progresse, il y a à peu près 70 ONG qui nous soutiennent nos objectifs à travers notre réseau mondial. Donc ça, c'est un progrès sur ce plan, mais on constate malheureusement que les États, les gouvernements ne sont pas très chauds pour l'idée. Et bien sûr, il y a toutes les dictatures, bon, la Russie, la Chine, l'Égypte, bon, qui sont évidemment pas très favorables à une convention qui renforcerait les droits des journalistes, la liberté de la presse, ça c'est clair. Mais malheureusement aussi, on constate de la part de certains pays occidentaux, j'aimerais par exemple les États-Unis, qui ne sont pas favorables parce qu'ils ont peur ensuite que leurs militaires soient traduits devant les tribunaux, qu'il y ait ensuite des enquêtes justement qui aillent plus loin qu'actuellement. Et qui nuisent finalement à leur liberté de manœuvre sur le champ de bataille. Alors, on voit l'exemple d'Israël actuellement. Et bien évidemment, Israël est tout à fait contre une telle convention parce qu'il y aurait des poursuites, il y aurait des enquêtes et ils n'en veulent pas, on le voit bien. Ils font tout pour que cette guerre se déroule sans témoins sur place. Et donc, évidemment, Israël est aussi très proche des États-Unis. Donc là, il y a un blocage certain de la part des États qui ne veulent pas se lier les mains.
Pourquoi il règne une certaine impunité pour les crimes contre les journalistes ? Cela reste assez répandu malgré les efforts de sensibilisation.
Oui, ben on voit par exemple, prenons un autre exemple, celui de la Russie. Bon, la Russie, c'est clair qu'un des grands des crimes les plus scandaleux qui a eu lieu ces dernières années, c'était en 2006 l'assassinat d'Anna Politkovskaya. On sait que ça a été commandé en très haut lieu. Donc évidemment, là, ce n'est pas Vladimir Poutine et ses sbires et c'était Kadyrov, en l'occurrence le dirigeant de Tchétchène, qui a commandité cet attentat, qui vont eux-mêmes faire des enquêtes pour se mettre en cause. Donc là, il y a évidemment une complicité au très haut niveau. Et ça a lieu dans pas mal de pays comme ça où en fait les journalistes qui dérangent le pouvoir en place, qui font des enquêtes sur des politiciens et ceux-là ils sont éliminés et il n'y a pas d'enquête parce que le système n'est pas indépendant quoi.
Pour nos auditeurs et auditrices et les personnes qui nous écoutent par l'intermédiaire bien évidemment des podcasts et autres, selon vous en quoi le travail des journalistes est-il particulièrement crucial aujourd'hui et pourquoi il est si important de le protéger ? Il est bien de le rappeler quand même.
Voilà, alors nous on est focalisé sur les zones de conflit et je trouve que c'est très important qu'il y ait des témoins indépendants dans ces zones-là pour témoigner des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité même qui sont commis pour les violations du droit humanitaire. Parce que s'il n'y a pas de témoins, bon, toutes ces violations peuvent se dérouler tout à fait impunément. Donc il n'y aura pas de suivi, il n'y a pas de suite. Il faut les faire connaître. Et les faire connaître, c'est une manière d'essayer en tout cas de les arrêter, de les faire cesser ou d'en réduire la portée, de diminuer l'impact, disons, de ces violations. Et même on le voit actuellement à Gaza, le fait qu'il y a quand même des journalistes palestiniens sur place qui diffusent des images, des photos, etc. Il y a un mouvement dans l'opinion qui peut se créer, qui peut faire pression sur les gouvernements, en l'occurrence américains, pour que Israël fasse preuve de modération. Donc c'est très important qu'il y ait des témoins indépendants sur le terrain. Et évidemment, s'ils sont pas protégés, s'ils exposent leur vie inutilement, s'ils sont éliminés, ciblés, ils peuvent pas se rendre dans ces zones.
Quels sont les principaux défis pour la PEC dans les années à venir et quelles seront vos priorités ?
Donc on va continuer d'énoncer les abus, continuer de documenter aussi ces abus. Donc ça c'est très important de les documenter, de documenter les crimes. Donc on a quand même, on fait régulièrement des rapports pour montrer justement dans quelles circonstances ces journalistes sont tués, pourquoi, comment, essayer de faire des enquêtes, dénoncer l'impunité. Donc ce travail de dénonciation des abus, on va le continuer. Alors après, ça évolue beaucoup selon justement l'état de la planète. Bon, alors malheureusement, ça ne s'améliore pas. Donc on va pas arrêter de sitôt à devoir documenter ces abus, ces violations du droit humanitaire, voilà, qui visent les journalistes, comme aussi d'ailleurs les travailleurs humanitaires, voilà, sur le terrain.
Et le prix PEC ?
Et voilà, alors le prix PEC, c'est un grand moment, effectivement, dans notre association. On l'a créé en 2009. Et chaque année, on récompense justement des journalistes, des associations qui œuvrent pour la liberté de la presse. Et on a fait des rencontres là qui sont très intéressantes, qui sont très émouvantes. On a pu vraiment, on a par exemple récompensé la fille de Boris Nemtsov, pardon, l'opposant russe qui a été tué, assassiné devant les portes du Kremlin. On a récompensé des opposants syriens. On a récompensé la famille de Caruana Galizia, qui a été assassiné à Malte aussi, dans un pays européen, donc ça arrive aussi. Et à chaque fois, on a constaté une grande volonté justement de faire la lumière sur ces crimes. Et là, pour nous, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quand même une solidarité, disons, entre journalistes, victimes. Et pour eux aussi, c'est très important.
Merci à vous, Blaise Lampen, cofondateur et président de la PEC, la presse emblème campagne, si on peut le dire en anglais, au sujet donc des 20 ans de cette organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection des journalistes, surtout dans les zones de tension, en zone de conflit également. Merci à tous et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Merci à vous.